Avertissement numéro 5 du rap Grande Culture du 28 mai 2021, lu par Isabelle Fréchette. Dans cet avertissement, il est question de vergris moissonneurs, de désherbage partant sec, de vergris noirs, de maladies des céréales d'automne, de la chrysomèle du haricot, de l'amarante tuberculée et du phénomène de jaunissement du maïs. Présence du vergris moissonneur, dépistage recommandé dans les zones touchées par le ravageur. Depuis la semaine passée, de nouvelles observations de larves de vergris moissonneur ont été rapportées au rap Grande Culture. Le ravageur est présent dans plusieurs champs dans la région de Charlevoix, à la Pocatière et à Saint-Pascal au Bas-Saint-Laurent et dans les localités de Saint-Jean-Port-Joli et de Sainte-Louise en Chaudière-Appalaches. Ces observations s'ajoutent à celles signalées dans le dernier avertissement. Un collaborateur du réseau a dépisté 5 champs dans Charlevoix le 25 mai. Le dépistage s'est fait en grattant le sol sur quelques centimètres de profondeur et en dénombrant les larves à 5 stations représentatives dans chacun de ces champs. Des larves retrouvées variaient entre 1 et 2,5 cm. Le dépistage de cette espèce est recommandé dans les prairies et les céréales, en particulier dans les zones où l'espèce a été observée cette année et dans les zones touchées l'année dernière. Attention de ne pas confondre le vergris moissonneur avec d'autres espèces de vergris. Il n'y a pas de seuil économique d'intervention pour les prairies autres que celles de la luzerne pure. Aucun produit n'est homologué pour lutter contre les vergris dans tous les types de prairies. Dans les cas d'infestation dans des prairies, la stratégie pourrait être de défoncer la fauche et de limiter les pertes de rendement occasionnées par les larves. Consultez le site web Sage Pesticides pour connaître les produits homologués pour les autres cultures. Si un traitement est justifié, ce dernier doit être réalisé avant que la taille moyenne des larves n'atteigne 2,5 cm. Au-delà de cette taille, le traitement n'est plus efficace. Pour les entreprises en régie biologique ou si les larves dépassent 2,5 cm, un passage d'une herse étrillée pourrait être une stratégie à envisager. Bien que l'efficacité de cette méthode n'ait pas été démontrée, cette action pourrait permettre de blesser les larves ou de les exposer à la dessiccation et davantage aux prédateurs naturels comme les carabes et les oiseaux. Pour plus de détails, dont les facteurs rendant les champs plus à risque, la méthode de dépistage et les seuils d'intervention considérés dans les prairies canadiennes, référez-vous à l'avertissement numéro 3 du 14 mai 2021 et à une présentation donnée le 6 mai dernier sur le sujet, également disponible en ligne. Dans l'avertissement, vous pourrez voir une courte vidéo de quelques secondes, réalisée le 21 mai dernier dans la région de Charlevoix, montrant des vergris dans un champ et leur comportement lorsqu'on les dérange. Désherber en période sèche. Dans certaines régions du Québec, la faible pluviométrie des dernières semaines risque de causer une baisse d'efficacité des herbicides appliqués en prélevé des cultures. Pour qu'ils soient efficaces, ces herbicides doivent être activés par la pluie, préférablement 5 à 7 jours après l'application. De plus, même si l'herbicide a été activé au bon moment, si le sol s'assèche dans les semaines subséquentes, ces herbicides deviennent moins disponibles aux mauvaises herbes. 2 semaines après l'application, assurez-vous de l'efficacité du traitement en vérifiant si les mauvaises herbes reprennent de la vigueur et si celles en germination, c'est-à-dire qu'on voit des fils blancs dans le sol, sont saines ou affectées. Ce suivi post-traitement permettra de déterminer si une autre intervention mécanique ou chimique s'impose. Si une autre intervention est jugée nécessaire, voici 7 éléments à considérer. Premièrement, à la suite d'un épisode de temps sec, le désherbage peut être plus ardu. En effet, suite à des épisodes de pluie, l'émergence peut survenir en vagues successives. Comme certaines espèces de mauvaises herbes sont mieux adaptées que d'autres aux conditions sèches, un changement des espèces dominantes peut survenir par rapport à une année normale. Ainsi, le dépistage devient incontournable pour choisir les herbicides et le moment de leur application. Dans l'avertissement se trouve une vidéo résumant les aspects à prendre en considération lors du dépistage. Deuxièmement, un traitement de post-levée doit être fait rapidement après l'émergence de la culture pour augmenter les chances de succès et limiter la compétition avec la culture. En effet, la plupart des herbicides et des techniques de lutte mécanique perdent leur efficacité si les mauvaises herbes ont plus de 10 cm de hauteur. Troisièmement, certains herbicides de post-levée ont un effet résiduel qui devient un atout pour contrôler des mauvaises herbes qui germent plus tard pendant la saison. Quatrièmement, la performance des herbicides appliqués en post-levée est aussi influencée par la chaleur et les conditions de sécheresse. L'absorption des herbicides par certaines mauvaises herbes peut être affectée car les feuilles ont tendance soit à développer une cuticule plus épaisse, soit à refermer le plus rapidement possible leurs stomates ou encore à adopter un port vertical pour limiter leur perte en eau. Les herbicides systémiques, qui entrent via les racines, agiront plus efficacement s'il y a suffisamment d'eau dans le sol. En 2019, des difficultés ont été rencontrées lors de traitements sur du chénopode avec du glyphosate. Pour en savoir davantage, consultez le communiqué « Problème de contrôle du chénopode avec du glyphosate, cause possible ». Cinquièmement, en conditions chaudes, il est d'autant plus avantageux d'utiliser les adjuvants indiqués sur l'étiquette des herbicides afin d'optimiser l'absorption du produit par les mauvaises herbes. Sixièmement, l'efficacité de certains herbicides, tels que le glyphosate, est réduite de façon importante par la présence de poussière sur les mauvaises herbes avant ou pendant l'application. Plusieurs approches sont possibles pour améliorer l'efficacité du traitement, comme réduire la vitesse lors de l'application, utiliser une dose plus élevée dans les zones du champ plus poussiéreuses, comme le bord d'un chemin de ferme, augmenter le volume d'eau, etc. Septièmement, la qualité de la pulvérisation, grosseur des gouttelettes, le volume et la qualité de l'eau, etc., est un facteur déterminant dans le cas des herbicides de contact. Suivez de près les directives des étiquettes. Vert-gris-noir, dépistage des larves dans les champs à risque dans le sud du Québec. Des signes de la présence de larves de vert-gris-noir dans des champs de maïs ont été constatés. Des feuilles trouées et des petites larves de 5 mm ont été trouvées à Saint-Édouard, en Montérégie-Ouest, bien que l'identification soit en cours de validation. Toujours dans cette région, quelques plants coupés ont été remarqués le 27 mai dans un champ de maïs semé après la destruction d'une culture de seigle d'automne à la colle. À Stanbridge-Est, en Montérégie-Est, quelques plants de maïs coupés ont aussi été observés dans un champ de maïs semé tardivement dans une prairie fraîchement détruite. Des dommages plus légers ont été constatés dans des champs environnants. C'est lorsque les larves atteignent leur quatrième stade larvaire, c'est-à-dire quand elles ont un peu plus d'un centimètre, qu'elles peuvent couper le maïs et ce, jusqu'au stade 5 feuilles, stade du maïs à partir duquel la culture n'est plus à risque. Chaque année, des pièges sont installés dans plusieurs régions du Québec afin de suivre la migration des papillons du vert-gris-noir en provenance des États-Unis. Les dates d'arrivée des adultes permettent d'estimer, sur la base du nombre de degrés jours accumulés, le moment où les larves seront suffisamment grosses pour couper les plants de maïs. Dans l'avertissement se trouve un tableau montrant une estimation des dates d'observation des premiers plants coupés et des dates de début de coupe intensive pour différentes régions. Ces résultats sont obtenus sur base d'un modèle prévisionnel mis à jour le 27 mai 2021 pour simuler le développement de larves issues de pontes s'étalant du 6 au 17 mai. Voici les dates d'apparition des premiers plants coupés, c'est-à-dire l'atteinte du quatrième stade larvaire pour le Bas-Saint-Laurent. Du 10 au 23 juin. Pour la Capitale-Nationale, du 7 au 16 juin. Pour le Centre du Québec, 3 au 12 juin. Chaudière-Appalaches, 6 au 16 juin. Estrie, 7 au 15 juin. Lanaudière, 2 au 13 juin. Laurentides, 3 au 11 juin. Mauricie, 4 au 10 juin, Montérégie-Est, 1er au 9 juin, Montérégie-Ouest, 1er au 9 juin, Outaouais, 5 au 13 juin. Compte tenu de ces résultats et des premières observations, le suivi des champs à risque pour vérifier la présence des premiers dommages est recommandé dès maintenant dans le sud de la province. Les champs les plus à risque d'être attaqués par les larves de vert-gris-noir sont les champs avec une pression importante de mauvaises herbes deux semaines avant le semis, car ces champs sont plus attractifs pour la ponte. Les larves préfèrent s'alimenter de mauvaises herbes plutôt que de maïs. Le vert-gris-noir apprécie plus particulièrement la patience crépue, le chénopode blanc, la barbarie vulgaire, le tabouret des champs, ainsi que les volontaires de céréales d'automne. Les champs semés sur un retour de seigle d'automne, les champs semés sur un précédent cultural de soya, surtout avec la présence de résidus de soya, les champs en semis direct, surtout sur un retour de prairie ou de soya, et les champs qui ont un historique d'infestation par le vert-gris-noir. Dans l'avertissement, vous trouverez un tableau montrant les résultats des captures d'adultes qui ont été variables dans l'ensemble de la province. Au Québec, on considère que les captures sont élevées à partir de 40 papillons par piège par semaine. Ces résultats indiquent dans quel secteur des papillons étaient présents, mais ne permettent pas de déterminer précisément où les papillons pondent et où les larves seront actives et dommageables. Le nombre de papillons capturés dans un piège à phéromones ne permet pas de juger du risque de retrouver des larves dans le champ où ce piège est installé. Pour en savoir plus sur la méthode de dépistage, les seuils économiques d'intervention, l'effet des traitements des semences insecticides et celui des hybrides BT, consultez la fiche technique vert-gris-noir. Surveillance toujours de mise des maladies des céréales d'automne. L'oïdium et la fusariose de l'épi sont les principales maladies à surveiller dans les céréales d'automne. Il n'y a eu aucune observation de rouille-jaune rapportée jusqu'à maintenant. Depuis le dernier avertissement, la présence d'oïdium a été rapportée dans un champ de blé d'automne au centre du Québec. Pour ce champ, la culture a bien poussé depuis l'observation de la maladie le 21 mai, l'infection est moins visible et s'est limitée aux feuilles du bas des plants. Selon les échos du terrain, cette situation est probablement répandue dans plusieurs champs de céréales d'automne où l'oïdium suscitait de l'inquiétude. Les feuilles étendards sont maintenant sorties et exemptes de taches foliaires. Ces champs n'ont heureusement pas été sujets à une application de fongicide. Les conditions météorologiques ont généralement été défavorables à la maladie. Il demeure encore important de suivre les conditions météorologiques, la présence de la maladie et le développement de la culture. L'oïdium se développe au mieux dans des conditions fraîches et humides, soit à une humidité supérieure à 85 % minimum 50 % et à des températures entre 15 et 22 degrés Celsius. Un suivi au champ permet de s'assurer que la maladie ne progresse pas pour atteindre les trois feuilles du haut des plants. Si la maladie est présente, le champ doit être dépisté fréquemment, deux fois par semaine au minimum. Certains cultivars sont plus résistants que d'autres à la maladie. Il est approprié de considérer conjointement l'état de la situation concernant l'oïdium et la fusariose de l'épi si la culture de la céréale arrive à l'épiaison. Certains fongicides ne peuvent être employés plus d'une fois par saison. Lire les étiquettes des produits permet de connaître les restrictions d'usage, dont l'intervalle minimum entre les applications de différents produits. Si l'oïdium progresse vers les feuilles du haut et en fonction de l'évaluation du risque lié à la fusariose, il est possible de protéger la feuille étendard et de réprimer à la fois la fusariose et l'oïdium avec un fongicide homologué pour les deux maladies au moment du début de la floraison. Il faut éviter les strobilurines. La décision d'intervenir pour contrôler l'oïdium et les autres maladies causant des taches foliaires, comme la rouille jaune, doit se baser sur un dépistage des symptômes. Dans le cas de la fusariose de l'épi, il n'est pas possible de déterminer de la pertinence d'intervenir sur base de symptômes visibles. Il faut se soucier du risque d'infection lorsque la céréale se rapproche du stade où elle est sensible, c'est-à-dire à la floraison. Si un traitement est justifié, on doit viser l'appliquer avant la mi-floraison. Afin de vérifier le niveau de risque, consultez les cartes sur le site web Agrométéo Québec qui présente le niveau de risque d'infection de la fusariose de l'épi. Le module WeatherScope, accessible en cliquant sur l'icône représentant un globe terrestre, permet de les agrandir et est maintenant fonctionnel. Pour plus d'éléments à considérer en lien avec l'oïdium, dont les produits homologués à la fois pour cette maladie et la fusariose, référez-vous à l'avertissement numéro 3 du 14 mai 2021. L'avertissement numéro 4 présente une illustration des stades d'intervention pour la fusariose de l'épi, contient plus de détails sur la maladie ainsi que d'autres liens pour des informations supplémentaires. Vous pouvez aussi consulter le billet de blog sur la fusariose de l'épi. Nous suivons la situation pour les céréales de printemps. Il n'y a pour le moment rien qui mérite attention, mais les avertissements dans les prochaines semaines en feront mention s'il y a lieu. Mise en garde, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agrométéo Québec, Solutions Maisonnette et le RAP Grande Culture ne peuvent être tenus responsables de tout dommage de quelque nature que ce soit, notamment la perte de rendement agricole, la perte de qualité ou toute autre perte financière résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ces cartes. Présence de la chrysomèle du haricot dans du soya en Montérégie. Depuis les derniers jours, la chrysomèle du haricot a été observée s'alimentant du soya en Montérégie. Ces adultes ont passé l'hiver dans les boisés et les bordures de fossés. Les chrysomèles vont se nourrir sur les plants et pondre leurs œufs avant de mourir prochainement. Selon le guide agronomique des grandes cultures de l'Ontario, la ponte se termine à la mi-juin et l'activité des adultes est quasi inexistante entre ce moment et la mi-juillet. En 2020, la chrysomèle du haricot était présente dans certaines zones en Montérégie, aux alentours de Saint-Bernard-de-Michaudeville, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Chrysostome, Saint-Urbain-Ier, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Étienne-de-Beauharnois, et à l'Assomption dans la région de la Naudière. Pour savoir comment reconnaître l'insecte, consultez la fiche technique sur le site web d'Iris Phytoprotection. Dans le soya, le risque que l'insecte affecte le rendement reposera sur le stade de développement de la culture, le taux de défoliation et les dommages causés aux gousses. Présentement, au sud de la province, il est possible que seuls les cotylédons soient sortis, moment où la culture est plus fragile aux dommages lors d'une forte infestation. À partir du stade unifolié, le soya est plus tolérant à cet insecte. Vous avez dans l'avertissement un lien pour accéder au guide sur les stades de croissance du soya. La méthode de dépistage consiste à sélectionner au hasard au moins 5 endroits dans le champ et dénombrer les chrysomèles sur une distance de 5 mètres le long d'un rang. Selon le seuil d'intervention recommandé en Ontario, pour les stades crochets à deux feuilles trifoliées, une intervention pourrait être justifiée lorsqu'il y a au moins 52 chrysomèles pour 1 mètre de rang. Le moment idéal pour les dépister est tôt le matin. Il faut veiller à créer le moins de turbulences possible en marchant, car les insectes tendent à se laisser tomber et se cacher dans les fentes du sol. À partir des œufs pondus par les adultes qui peuvent être observés maintenant, une nouvelle génération émergera au cours du mois de juillet. L'impact de cette génération sur la culture devra être évalué sur base de la défoliation et des dommages aux gousses qu'elle entraînera. Surveiller l'émergence de l'amarante tuberculée. Il est important de surveiller dès maintenant l'émergence de l'amarante tuberculée. La levée de la mauvaise herbe a été constatée le 27 et 28 mai dans les MRC suivantes: Mascoutin, Jardin de Napierville et Mirabel. L'amarante tuberculée peut être difficile à identifier, surtout si les premières feuilles ne sont pas encore présentes sur les jeunes plants. Au stade plantule, l'amarante tuberculée se distingue par les critères suivants. Ses cotylédons sont plus ovales que ceux des amarantes de Powell et à racines rouges. Le bout des feuilles est échancré. Les plantules sont glabres, c'est-à-dire sans poils. Dans l'avertissement, vous avez une photo montrant quelques caractéristiques pour différencier les différentes amarantes au stade de plantule. Les plantules d'amarantes tuberculées au stade cotylédon peuvent être confondues avec le chénopode blanc et les renouées liserons et persicaires. Encore une fois, vous avez une photo montrant les différentes mauvaises herbes mentionnées. Les premières feuilles vous aideront à bien les différencier. Si vous avez un doute quant à l'identification, le laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC offre l'identification biomoléculaire des espèces d'amarantes. Si les plantules identifiées s'avèrent être de l'amarante tuberculée, le laboratoire fera une analyse de résistance aux herbicides, ce qui permettra d'adapter votre stratégie d'intervention en conséquence. Le coût de ces services en lien avec l'amarante tuberculée lorsque celle-ci est confirmée sont entièrement pris en charge par le plan d'intervention phytosanitaire pour lutter contre l'amarante tuberculée. Pour plus d'informations sur la mauvaise herbe, vous pouvez consulter la fiche technique du RAPT sur l'amarante tuberculée et la fiche « Différenciation entre les espèces d'amarante ». Jaunissement des plantules de maïs dû au temps frais. Plusieurs champs de maïs ont actuellement des plants avec des feuilles vert pâle ou jaune. Souvent, le cœur du plant est particulièrement jauni. Des champs complets présentent ces symptômes. Dans la plupart des cas, cela est dû au temps frais et n'aura pas d'impact sur le rendement. La coloration normale du maïs devrait revenir après le retour du beau temps. Précisons également que la coloration normale des plants de maïs diffère selon les hybrides. Dans l'avertissement, vous avez une photo montrant un plant de maïs jauni dû au temps frais. D'autres causes peuvent cependant expliquer le jaunissement des plants de maïs, notamment des stress d'herbicides ou des carences en éléments tels que le soufre. Dans ces cas, la distribution des plants symptomatiques ne sera pas généralisée dans le champ. Par exemple, les stress d'herbicides peuvent apparaître aux endroits où la dose a été plus importante, par exemple dans des situations où il y a eu recroisement lors de la pulvérisation. Des plants carencés en soufre pourraient être situés dans des zones avec une abondance de résidus au sol ou dans des zones sableuses. Au cours des prochaines semaines, il sera possible d'observer des plants de maïs striés, jaunissement entre les nervures. Plusieurs facteurs peuvent être en cause, notamment les conditions météorologiques. Un prochain avertissement abordera ce sujet. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l'avertisseur du réseau Grande Culture ou le secrétariat du RAP.